Chapitre 6. Pierre. Il existe certaines techniques que l'on peut apprendre pour résister à la torture. L'une d'elles consiste à séparer l'esprit du corps. Pour moitié, la souffrance qu'inflige un bourreau expérimenté provient non de la douleur physique de la victime, mais de la gravité des lésions qu'elle sait avoir subies. Le bourreau doit faire preuve d'un grand doigté s'il veut amener son sujet à parler. Si ce dernier sent que ses dégâts corporels dépassent tout espoir de guérison, il perd tout intérêt à répondre aux questions et n'aspire plus qu'à plonger rapidement dans la mort. Mais s'il parvient à maintenir les supplices en deçà de cette limite, le bourreau peut faire de la victime le complice de ses propres tourments. Perdue dans la souffrance physique, elle est la proie d'une interrogation qui lui déchire le cœur. Combien de temps parviendra-t-elle à garder le silence sans pousser son tortionnaire à franchir la frontière des dégâts irréparables? Tant que la victime se tait, le bourreau poursuit son travail et s'approche toujours davantage du point où l'organisme ne peut plus guérir. Une fois qu'un homme a été brisé par la torture, il demeure une victime à jamais. Il ne peut plus oublier le lieu où il s'est rendu. L'instant où il a préféré tout avouer, plutôt que supporter une souffrance encore plus grande. C'est une humiliation dont personne ne se remet jamais complètement, et certains cherchent à l'effacer en infligeant eux-mêmes des supplices semblables à une nouvelle victime destinée à porter cette honte à leur place. La cruauté est un art qui s'apprend non seulement par l'exemple, mais aussi par l'expérience. Extrait du manuscrit « Des usages de la douleur » de Verset. Nous chevauchions toujours quand le soleil se leva. Fermes, champs cultivés et pâtures se raréfièrent, puis disparurent, pour laisser la place à des collines caillouteuses et des forêts clairsemées. J'éprouvais de l'appréhension à la fois pour mon loup et pour mon jeune prince, mais, tout bien considéré, je jugeais mon compagnon à quatre pattes plus apte à prendre soin de lui-même que de voir, et, avec une résolution qu'il aurait approuvée, je chassais le loup de mes pensées et concentrait mon attention sur la route que nous longions. L'atmosphère lourde exaltait la chaleur du soleil. Un orage montait, je le sentais, et une averse trop considérable effacerait toute trace de ce que nous poursuivions. La tension me rongeait. Sans que nous eussions à nous donner le mot, Laurier prit le côté gauche de la route et moi le droit. Nous cherchions des empreintes de chevaux qui s'en seraient écartées, et plus précisément, de trois montures lancées au grand galop. Pour ma part, si je m'étais trouvé pour chasser par des cavaliers, ma première idée aurait été d'éviter toute voie de circulation et de m'enfoncer dans les bois où j'aurais eu meilleure chance de les semer. Et je supposais que le prince et ses compagnons avaient tenu le même raisonnement. Ma crainte que nous eussions manqué leur piste dans l'obscurité allait croissant quand Laurier cria soudain qu'elle l'avait repéré. Un simple coup d'œil m'assura qu'elle ne s'était pas trompée. On voyait clairement l'empreinte de nombreux chevaux ferrés quittant la route en grande hâte, parmi lesquels, facilement identifiables, les traces largement espacées du grand cheval de bataille. J'eus la conviction que nous avions découvert le point où le prince avait abandonné la route avec ses compagnons et où la troupe de chasseurs les avait imités. Tandis que le fou et Laurier s'élançaient, je mis pied à terre un instant sous prétexte de resserrer les sangles de nos paquetages sur ma noire. Puis, je saisis l'occasion pour me soulager au bord de la route. Œil de nuit serait à l'affût d'un signe de mon passage. De nouveau en selle, je rattrapai rapidement les autres. Au loin, l'horizon s'assombrissait, et nous entendîmes plusieurs grondements de tonnerre assourdis. Les traces étaient faciles à suivre, et nous lançâmes nos bêtes fatiguées au petit galop. Nous franchîmes ainsi deux collines couvertes d'herbes et de broussailles, et alors que nous en gravissions une troisième, nous rencontrâmes à mi-pente un bois de chênes et d'aulnes. C'est là que nous rattrapâmes le groupe des poursuivants. Ils étaient une demi-douzaine, étendus dans l'herbe haute à l'ombre des arbres. Leurs assaillants avaient également abattu leurs montures et leurs chiens, ce qui était fort avisé. Des chevaux revenus au village sans cavalier auraient déclenché une nouvelle poursuite beaucoup plus tôt. Cependant, ce massacre me donna la nausée, d'autant plus que ceux qui l'avaient perpétré appartenaient au lignage. Une telle insensibilité me fit froid dans le dos. Les chevaux n'avaient rien fait pour mériter la mort. Qui donc étaient ces gens avec qui fuyait le prince? Laurier se couvrit la bouche et le nez de la main et resta en selle. Sir Doré paraissait là, et il avait manifestement le cœur au bord des lèvres, mais il mit pied à terre en même temps que moi, et nous examinâmes les cadavres des hommes. Ils étaient tous jeunes, de l'âge idéal pour se laisser prendre à toutes les folies. La veille, dans l'après-midi, ils avaient sauté sur leurs chevaux pour massacrer du prince Pi. Le soir, ils étaient morts. Allongés dans l'herbe, ils n'avaient pas l'air cruels, barbares, ni même stupides, seulement morts. Je regardais autour de nous. « Il y avait des archers dans ces arbres là-bas, » dis-je, « et ils s'y tenaient postés depuis quelque temps. » À mon avis, le groupe du prince a traversé ce bois sans s'arrêter, en comptant sur ses hommes pour les protéger. Je n'avais retrouvé qu'une seule flèche, et elle était brisée. Les autres avaient été récupérés sur les corps, avec un sens de l'économie qui ne laissait aucune place à la sensibilité. Ceci n'est pas une blessure de flèche. Sir Doré désignait un homme qui gisait à l'écart de ses compagnons. Des trous béants perçaient sa gorge, et de puissantes pattes armées de griffes l'avaient éventré. De ses entrailles répandues montait un bourdonnement, et les mouches agglutinées sur son visage dissimulaient à demi l'expression d'horreur de son regard. Voyez les chiens, ce sont des Marguets qui les ont attaqués eux aussi. Tous les princes-pis se sont retrouvés ici. Ils ont attendu ceux qui les poursuivaient et les ont éliminés. Puis ils sont repartis. Oui. Était-ce la Marguette du prince qui avait tué cet homme? Leurs esprits étaient-ils joints à ce moment-là? Combien sont-ils à présent, selon vous? Demanda le fou. Laurier s'était un peu éloigné dans la direction qu'avait prise le groupe que nous traquions, sans doute autant pour s'écarter des corps qui commençaient à enfler que pour étudier la piste. Je ne le lui reprochais pas. Elle se retourna pour déclarer à mi-voix. « Je distingue au moins 8 types d'empreintes différentes. »« Il faut les suivre sans perdre un instant, » dit Sir Doré. Laurier acquiesça de la tête. D'autres villageois ont dû se mettre en route en ne voyant pas leurs camarades revenir. Quand ils vont tomber sur ces cadavres, ils vont devenir enragés. Nous devons récupérer le prince avant que les deux groupes ne se rencontrent. Décrite ainsi, l'opération paraissait toute simple. À mon grand agacement, Manoir recula par deux fois en crabe avant que je parvienne à saisir ses rênes. Elle avait bien besoin d'un bon dressage, mais l'heure ne s'y prêtait pas. Et puis, je me rappelais que l'odeur du sang trouble le plus calme des animaux et qu'un peu de patience me rapporterait plus tard de grandes dividendes. Avec un autre que moi, tu aurais eu droit à un solide coup de poing entre les oreilles, lui murmurai-je quand je fus enfin en selle. Le frisson d'appréhension qui l'a parcouru m'étonna. Manifestement, son contact avec moi était plus étroit que je ne l'imaginais. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas mon genre, » lui dis-je d'un ton rassurant. Et, en bonne représentante de sa race, elle fit comme si elle n'avait rien entendu. Le tonnerre roula au loin de nouveau et elle rabattit les oreilles en arrière. Je crois que nous ressentîmes tous trois un certain malaise à nous en aller en laissant les cadavres gonfler sous le soleil. D'un point de vue réaliste, c'était pourtant la solution la plus judicieuse. Leurs camarades ne tarderaient pas à les trouver, et c'est à eux que reviendrait la tâche de les ensevelir, ce qui les retarderait à notre profit. Mais, judicieux ou non, ce n'était pas bien. Les traces que nous suivions désormais étaient celles profondes de chevaux durement menés. Le sol frais du sous-bois gardait bien les empreintes, et tout d'abord, elles restèrent si parfaitement visibles qu'un enfant aurait pu les repérer. Les cavaliers n'avaient cherché qu'à prendre de la distance le plus vite possible, mais au bout d'un moment, elles descendirent au fond d'une ravine et longèrent un ruisseau sinueux. Je me fiais à Manoir pour marcher dans les pas de Malta et surveiller les arbres qui nous surplombaient au cas où l'on nous aurait tendu une embuscade. Une inquiétude indéfinissable me hantait. Les fidèles du prince Pi avec lesquels voyageait le prince paraissaient très organisés, presque de façon militaire. Nous étions en présence du second groupe d'hommes qui attendait le prince pour l'emmener. Un membre au moins n'avait pas hésité à donner sa vie pour les autres, et ils avaient massacré, sans aucun scrupule, ceux qui les pourchassaient. Prêts à tous les sacrifices, et en même temps impitoyables, ils ne reculeraient manifestement devant rien pour conserver le prince et l'emmener à la destination prévue. Dans ces conditions, nous n'étions probablement pas de taille à le tirer de leurs griffes. Cependant, je ne voyais pas d'autre solution que suivre leur piste. Renvoyer Laurier à Castelserre pour chercher la garde était irréaliste. Quand elle reviendrait, il serait trop tard. Nous perdrions non seulement du temps, mais aussi le secret qui devait entourer notre mission. La ravine s'élargit et se transforma en étroite vallée, et les empreintes s'écartèrent du ruisseau. Avant de le quitter à notre tour, nous fîmes une courte halte pour remplir nos outres et partager un peu du pain et quelques-unes des pommes que le fou avait chapardées. Je me fis bien voir de Manoir en lui offrant mon trognon. Puis nous remontâmes en selle et nous remîmes en route. Le long après-midi touchait à sa fin. Nous ne parlions guère. Il n'y avait pas grand-chose à dire, sauf si nous tenions à exprimer tout haut nos appréhensions. Le danger se trouvait derrière autant que devant nous. Et dans les deux cas, nous étions en infériorité numérique. Je regrettais amèrement l'absence de mon loup. La piste quitta le fond de la vallée pour se lancer dans l'ascension des collines. Les arbres se clairsemèrent et le terrain devint de plus en plus caillouteux. La terre dure compliqua notre traque et nous dûmes ralentir. Nous croisâmes les fondations d'un hameau abandonné depuis bien longtemps, puis de singuliers monticules sur une pente parsemée de gros blocs de pierre. Sire Doré remarqua que je les regardais et murmura « Des tombes ?»« Non, elles seraient trop grandes, » répondis-je.
« Pas pour les gens qui vivaient ici. Ils construisaient des salles de pierre pour y déposer leurs morts, et on y inhumait souvent des familles entières. »
Je me retournai pour observer les tertres avec curiosité. Ils étaient recouverts d'herbes hautes et jaunies qui se balançaient au vent. S'il y avait de la pierre sous la terre, elle était bien cachée.
« Comment savez-vous tout cela ? » demandai-je au seigneur Doré.
Il ne tourna pas la tête.
« Je le sais, c'est tout, Blaireau. Ce sont les avantages de l'éducation d'un aristocrate, si vous voulez. »«
Je connais des contes sur ces tumulus, » intervint Laurier à mi-voix. « On dit que des spectres grands et maigres en sortent parfois pour s'emparer d'enfants égarés et que...
« Eda nous garde ! Regardez ! Une pierre dressée, comme dans les contes !»
Je suivis des yeux la direction qu'elle indiquait, et un frisson glacé me parcourut. Noire et luisante, la colonne était deux fois plus haute qu'un homme. Des veines d'argent la striaient, et ni mousse ni lichen ne poussaient à sa surface. La brise de l'intérieur des terres l'avait moins endommagée que les tempêtes chargées de sel n'avaient rongé les pierres témoins de Castelserre. À la distance où nous nous trouvions, je ne distinguais pas les signes taillés dans ses flancs. Mais je savais qu'ils existaient. Elle était cousine des pierres témoins et sœur du pilier noir qui m'avait autrefois transporté dans la cité des anciens. Incapable d'en détacher les yeux, je sus qu'elle avait été extraite de la carrière qui avait vu naître le dragon de vérité. Était-ce la magie ou des muscles qui l'avaient déposée si loin de son lieu d'origine?
« Trouve-t-on toujours une pierre dressée là où il y a ces tombes ?» demandai-je à Sire Doré.
Deux objets, côte à côte, n'ont pas obligatoirement de rapport entre eux,
répondit-il doucement, et je compris qu'il évitait la question. Je me tournai légèrement dans ma selle pour interroger Laurier. Que disent les légendes à propos de ces pierres? Elle haussa les épaules et sourit, mais je crois que mon ton avide la troubla.
Les histoires sont nombreuses, cependant, elles se réduisent toutes à la même intrigue.
Elle inspira profondément. Un enfant qui s'est perdu, un berger désœuvré, des amants en fuite devant des parents qui interdisent leur amour, arrivent dans un champ de tumulus. Dans la plupart des cas, ils s'assoient près d'un monticule pour se reposer ou chercher un coin d'ombre par une chaude journée, et alors les fantômes sortent des tertres et les conduisent à la pierre dressée. Ils y pénètrent à la suite du spectre et se retrouvent dans un autre monde. Dans certains contes, ils ne reviennent jamais. Dans d'autres, ils réapparaissent très âgés alors qu'ils n'ont disparu qu'une seule nuit. Et, dans d'autres encore, c'est le contraire. Les amants ressurgissent, toujours aussi jeunes, alors qu'un siècle s'est écoulé. Leurs parents, qui contrariaient leurs projets, sont au cimetière depuis longtemps, et ils sont libres de se marier.
J'avais ma propre opinion sur ces contes, mais je la gardais pour moi. Jadis, j'étais entré dans un de ces piliers, et j'avais été expédié très loin, dans une cité morte. À un moment, les murs de pierre noire m'avaient parlé, et la cité s'était réveillée à la vie autour de moi. Les monolithes et les villes de pierre noire étaient l'œuvre de la race éteinte des anciens. Jusque-là, j'étais persuadé qu'ils habitaient un royaume lointain, au cœur des montagnes qui se dressaient au-delà du pays de Kaitriken, et voici que j'avais pour la seconde fois la preuve qu'ils avaient séjourné dans les collines des Siduchés. Mais il y avait combien d'été de cela? J'essayais de croiser le regard de Sire Doré, mais il garda les yeux braqués devant lui, et il me sembla même qu'il fit presser le pas à Malta. Je compris, au pli de ses lèvres, qu'il ne répondrait à mes questions que par d'autres questions ou des pirouettes. Je reportai mes efforts sur Laurier. Il est curieux que vous ayez entendu en Bauge des légendes sur le lieu où nous nous trouvons. Elle haussa de nouveau les épaules. Elle parlait en réalité d'un lieu semblable en Bauge, et puis, je vous l'ai dit, ma famille maternelle habitait non loin du fief des Brézinga, et nous nous voyions souvent lorsque ma mère vivait encore. Je suis prêt à parier que les gens de la région racontent les mêmes histoires sur ces tertres et ce pilier, s'il y a des gens dans cette région. Cette possibilité paraissait de moins en moins vraisemblable à mesure que la journée s'écoulait. Plus nous avancions, plus le pays devenait sauvage. L'horizon s'assombrissait et l'orage murmurait des menaces, mais ne se rapprochait pas. Si les vallées que nous traversions avaient connu le soc où les collines portaient des pâtures, elles l'avaient oublié depuis de longues années. La terre était sèche et des rochers pointaient entre les touffes d'herbes jaunes et les buissons rabougris. Seules les stridulations des insectes et quelques cris d'oiseaux indiquaient la présence d'une vie animale. La piste devint plus difficile à suivre et nous dûmes ralentir. Je jetai de fréquents coups d'œil derrière nous, avec pour se repérer nos traces superposées à celles sur lesquelles nous nous guidions. Nous poursuivants n'auraient guère de mal à nous rattraper. Malheureusement, je ne voyais pas comment l'éviter. Le bourdonnement de fond des insectes s'interrompit brusquement sur notre gauche. Je me tournai dans cette direction, l'estomac noué, et puis je sentis la présence de mon frère. De respiration encore, et je l'aperçus. Comme toujours, je m'émerveillais de la capacité du loup à se camoufler, même dans le paysage le plus nu. Comme il se dirigeait vers nous, mon soulagement fit place peu à peu au désarroi. Il trottait avec opiniâtreté, la tête basse, la langue pendant presque jusqu'à mi-patte. Sans dire un mot à mes compagnons, je tirai les rênes de ma noire et mis pied à terre en prenant mon outre au passage. Œil de Nuit vint à moi, et je lui donnai à boire au creux de mes mains. « Comment as-tu fait pour nous rejoindre si vite? Vous suivez les traces et vous avancez lentement pour ne pas les perdre. Moi, j'ai suivi mon cœur. Votre chemin vous faisait contourner les collines. Le mien m'a conduit droit vers toi, par des terrains qu'un cheval n'apprécierait pas. Oh, mon frère, ça n'est pas le moment de t'apitoyer sur moi. Je viens vous avertir. Des hommes sont sur votre piste. Je les ai vus, ils se sont arrêtés près des cadavres et ils se sont mis à hurler de rage. Leur colère va les retarder un moment, mais quand ils vont se remettre en route, ce sera au galop, porté par leur fureur. Es-tu en état de soutenir notre allure? Je peux me cacher beaucoup plus facilement que toi. Au lieu de t'inquiéter de ce que je vais faire, tu ferais mieux de songer à ce que tu dois faire, toi. Les possibilités étaient des plus réduites. Je remontai en selle, talonnai ma noire et rattrapai mes compagnons. Il faut accélérer. Laurier me regarda fixement, mais se tut. Un léger changement dans le maintien de Sire Doré m'informa qu'il m'avait entendu, et Malta s'élança soudain. Manoir décida de ne pas se laisser distancer. Elle bondit en avant, et en quatre foulées, elle prit la tête. J'observai le sol qui défilait sous moi. Apparemment, le prince et ses compagnons s'étaient dirigés vers l'abri des arbres, et j'applaudis à leur décision. J'étais moi-même pressé que nous fussions tous à couvert. Je talonnais encore Manoir et nous menais tête baissée dans l'embuscade. Œil de Nuit lança un avertissement et je fis faire un écart à ma jument. Ce fut Laurier qui reçut la flèche, et elle tomba de cheval avec un cri de douleur. Mais c'était moi qu'on visait. Saisi de rage et d'horreur, je fonçai vers le petit bois. Ma chance fut qu'il n'y avait qu'un seul archer, et qu'il n'avait pas eu le temps d'encocher une nouvelle flèche. Comme nous passions sous les premières frondaisons, je me dressai dans mes étriers et, par miracle, accrochai une branche solide sur laquelle je me hissais. L'archer s'efforçait de pointer sa flèche sur moi, mais la végétation qui nous séparait le gênait. L'heure n'était pas à réfléchir aux conséquences. Bondissant à la manière d'un loup, je me jetai sur lui, et nous dégringolâmes de l'arbre, bras et jambes emmêlés. Une branche faillit me briser l'épaule sans pour autant freiner notre chute, mais elle nous fit pivoter
et j'atterris sur le dos, le jeune archer sur moi. L'impact chassa l'air de mes poumons. Je restais conscient, mais incapable de bouger. Par bonheur, Œil de Nuit m'épargna cette peine. Tout croc dehors, il se précipita sur le jeune homme et l'écarta de moi. Je sentis notre assaillant, surpris, tenter de repousser le loup, mais il était sans doute trop décontenancé pour y mettre beaucoup de vigueur. Pendant qu'il se battait à côté de moi, je demeurais allongé à suffoquer comme un poisson hors de l'eau. L'archer tenta de donner un coup de poing à Œil de Nuit, qui esquiva et saisit le poignet au passage. Le jeune homme poussa un cri aigu et lui envoya une violente ruade à la tête. Je sentis le choc étourdissant. Œil de Nuit ne lâcha pas prise, mais il perdit toute force. Comme l'archer dégageait son poignet en sang des mâchoires du loup, je retrouvais assez de souffle pour réagir. Sans me relever, je donnai à l'homme un coup de pied à la tête. Puis je me jetai sur lui et refermai mes mains sur sa gorge, tandis qu'Œil de Nuit lui crochait le mollet. Il s'agita en tous sens, mais ne parvint pas à s'échapper. Le loup, les crocs plantés dans son muscle, lui secouait la jambe. Pour ma part, je resserrai mes doigts sur sa gorge jusqu'à ce qu'il cesse de se débattre. Puis, en le tenant toujours d'une main, je tirai mon poignard. Le monde s'était réduit au cercle rouge qui représentait son visage.
« Tuez pas ! Ne le tuez pas ! Ne le tuez pas !»
Les cris de Cire Dorée parvinrent enfin jusqu'à mon cerveau, alors que je portais le poignard sur la gorge de notre assaillant. Jamais je n'avais eu moins envie d'écouter ce qu'on me disait. Cependant, comme la brume rouge du combat se dissipait devant mes yeux, je me retrouvais face à un garçon à peine plus âgé que Heur, ses yeux bleus exorbités, autant par la peur de la mort que par l'asphyxie. Durant notre chute, il s'était éraflé la joue, à présent zébré de dégoulinures sanglantes. Je relâchai mon étreinte et Œil de Nuit laissa tomber sa jambe. Mais je restai assis sur sa poitrine et maintins mon poignard sur sa gorge. Je ne me faisais pas d'illusions sur l'innocence des adolescents, et nous avions déjà vu celui-ci à l'œuvre avec un arc. Il me tuerait à la première occasion. Sans le quitter des yeux, je demandai au fou.
« Lauriers est morte ?»«
Sûrement pas !» C'était une voix féminine et nettement en colère qui m'avait répondu. Du coin de l'œil, je vis Lauriers s'approcher en titubant, la main serrée sur son épaule. Du sang coulait entre ses doigts. Elle avait déjà extrait la flèche elle-même.
« Vous avez eu la pointe ? » fis-je vivement.
« Je n'aurais pas essayé de retirer la flèche sans être sûr de l'avoir en un seul morceau » répliqua-t-elle vertement.
La douleur n'améliorait pas son caractère. Elle était pâle, mais deux taches rouges enflammaient ses pommettes. Elle regarda le garçon que je maintenais à terre, et ses yeux s'agrandirent. Je l'entendis prendre une inspiration hachée. Œil de Nuit vint se placer à côté de moi, haletant péniblement.
« Il faut nous en aller !»
La souffrance ralentissait le débit de sa pensée.
« D'autres hommes risquent de venir, ceux qui nous suivent ou ceux qui sont devant. »
Je vis le jeune homme plisser le front. Je levai les yeux vers Laurier. « Êtes-vous en état de monter à cheval ? Nous devons partir. Nous devons aussi interroger le prisonnier, mais ce n'est pas le moment. Je ne tiens pas à tomber nez à nez avec ceux qui nous suivent, ni avec les amis de celui-ci revenus le chercher. » À son expression, je sus que la jeune femme ignorait la réponse à ma question, mais elle mentit courageusement.
« Je peux monter. Allons-y. Moi aussi, j'aimerais interroger le prisonnier. »
L'archer la dévisagea, l'air horrifié par le ton haineux de la grand-veneuse, et il effectua soudain un saut de carpe, malgré mon poids, pour tenter de s'échapper. Je le giflai du dos de ma main libre.
« Ne recommence pas !
Il est beaucoup plus facile pour moi de te tuer que de te traîner derrière moi. » Il comprit que je disais la vérité. Le nez ruisselant de sang, il regarda Cire Dorée puis Laurier avant de reporter ses yeux sur moi. Son expression terrorisée m'était familière. Ce garçon avait déjà tué, mais jamais encore il ne s'était trouvé en danger de se faire tuer lui-même, et par une ironie du sort, je me sentais tout à fait qualifié pour lui faire connaître cette sensation. Nul doute que j'avais moi-même un jour affiché la même expression.
« Debout !»
15 ans plus tôt, je l'aurais relevé d'une seule main. Aujourd'hui, je ne lâchais pas le devant de sa chemise, mais le laissais se redresser tout seul.
J'avais encore le souffle court à la suite de notre bagarre, et je n'avais pas envie de gaspiller mon énergie pour une démonstration de force. Œil de Nuit était couché sur la mousse au pied de l'arbre, et haletait, sans chercher à dissimuler sa fatigue. « Disparais, » lui dis-je, « dans un instant. » L'archer nous observa tour à tour, l'air perplexe, mais je refusais de croiser son regard, et tranchais la lanière qui fermait le col de sa chemise. Il se raidit quand mon poignard tira sur le fil de cuir. D'un coup sec, j'ôtai la lanière et sans ménagement fis pivoter le garçon dos à moi. « Tes mains !» fis-je sèchement. Et il les plaça derrière lui, sans faire mine de résister. Il avait apparemment perdu tout esprit combatif. Les marques de crocs de son bras saignaient encore. Je lui liai fermement les poignets, et quand j'eus fini, je m'aperçus que Laurier le regardait d'un air mauvais. Manifestement, elle ne digérait pas d'avoir été prise pour cible. Peut-être n'avait-elle jamais été victime d'une tentative de meurtre. La première fois reste une expérience indélébile. Sire Doré l'aida à se mettre à cheval. Elle aurait préféré refuser son assistance, je le savais, mais elle n'osa pas. Rater sa montée en selle aurait été plus humiliant qu'accepter du secours. Manoir allait donc devoir nous transporter, mon captif et moi, ce qui ne nous réjouissait ni l'un ni l'autre. Je ramassai l'arc du jeune homme, et après une seconde d'hésitation, je le jetai dans l'arbre, où il se prit dans les branches et demeura suspendu. Avec de la chance, personne ne le verrait en passant en dessous. Au regard que le prisonnier lui lança, je compris qu'il y attachait de la valeur. Je saisis les rênes de Manoir. « Je vais monter, » dis-je à mon prisonnier, « puis je vais te hisser en croupe. Si tu ne coopères pas, je t'assomme et je te laisse ici à la merci des autres. Tu sais de qui je parle, ceux pour qui tu nous as pris, les tueurs du village. » Il passa sa langue sur ses lèvres. Tout le côté éraflé de son visage commençait à enfler et à s'assombrir. Il parla pour la première fois. « Vous n'êtes pas avec eux ?» Je le regardais d'un œil glacial. « Est-ce que tu t'es seulement posé la question avant de me tirer dessus ?» Je me mis en selle. « Vous suiviez notre trace ?» fit-il. Il jeta un coup d'œil à la femme qui l'avait blessée, et son visage exprima l'incrédulité. « J'ai cru que vous étiez des villageois qui venaient nous tuer, je vous le jure !» Je fis approcher Manoir de lui, et tendis la main. Il hésita un instant, puis leva une épaule vers moi. Je l'attrapai fermement par le bras gauche. Manoir renifla et se mit à tourner sur elle-même, mais après deux tentatives infructueuses, le jeune homme parvint à sauter et à passer une jambe par-dessus sa croupe. Je lui laissai un petit moment pour s'installer derrière moi, puis je l'avertis. « Serre les genoux, cette jument est grande, si tu tombes, tu as toutes les chances de te fracturer l'épaule. » Je jetai un regard sur le chemin par lequel nous étions arrivés. Il n'y avait toujours aucun signe de poursuite, mais j'avais le pressentiment que notre bonne fortune n'allait plus durer longtemps. J'étudiai les environs. La piste des Viviers partait à l'assaut d'une colline, mais je préférais ne pas me lancer sur leurs traces avant d'avoir arraché au jeune homme tout ce qu'il savait. Et j'eus l'idée d'un stratagème. Nous pouvions descendre la pente, au bas de laquelle nous trouverions probablement le lit d'un ruisseau actif au printemps. La terre vaguement humide du vallon prendrait aisément nos empreintes. Il nous suffirait de suivre le cours d'eau à sec pendant quelque temps, puis de le quitter pour gravir le versant opposé, franchir une certaine distance de terrain caillouteux, et enfin nous mettre à couvert. Cela fonctionnerait peut-être. Nos traces seraient fraîches, nos poursuivants supposeraient qu'ils étaient en train de nous rattraper, et nous les écarterions ainsi de la piste du prince. « Par ici !» dis-je, et j'entrepris de mettre mon plan en œuvre. Manoir n'appréciait pas de porter double charge, et elle avança, mais à pas maladroit, comme si elle tenait à me faire comprendre qu'elle n'approuvait pas mes manières. « Mais la piste !» fit Laurier, en voyant que nous abandonnions les traces que nous nous échinions à suivre depuis le matin. « Nous n'en avons plus besoin. Nous avons le prisonnier. Il saura où se dirigent ses compagnons. » J'entendis l'intéressé prendre une brusque inspiration, puis il déclara les dents serrées. « Je ne parlerai pas. »« Mais si, bien sûr, » rétorquai-je. Je talonnai Manoir tout en lui affirmant mentalement qu'elle avait intérêt à m'obéir. Décontenancée, elle se mit en route à longue foulée, supportant sans mal le surcroît de poids. Elle était puissante et rapide, mais elle avait l'habitude de n'employer ses qualités qu'au moment où cela lui chantait. J'allais devoir mettre les choses au point avec elle. Je lui fis dévaler la pente, puis suivre le ruisseau jusqu'à ce que nous rencontrions un affluent. Je constatai avec plaisir qu'il était à sec et caillouteux. Nous empruntâmes son lit, puis le quittâmes par un versant pierreux. L'archer serra les genoux pour ne pas glisser en arrière, et Manoir parut se débrouiller sans trop d'efforts dans la pente traîtresse. En espérant ne pas imposer une allure et un trajet trop difficile à suivre pour Laurier, je pressai Manoir de gravir le pierrier escarpé. Si j'avais réussi à entraîner les poursuivants du village sur nos traces, je ne souhaitais pas leur rendre notre pistage trop facile. Au sommet, je m'arrêtai pour laisser le temps à mes compagnons de me rejoindre. Œil de Nuit avait disparu. Il se reposait, je le savais, et reprenait des forces pour nous suivre. Je regrettais son absence à mes côtés, mais il courait moins de risques seul qu'auprès de moi. J'examinais le terrain. La nuit n'allait pas tarder, et lorsqu'elle serait tombée, je voulais que nous ayons trouvé une position camouflée, défendable et dominante. Il fallait continuer à monter. L'éminence sur laquelle nous nous tenions faisait partie d'une chaîne de collines qui traversait la région, et sa sœur la plus proche se dressait non loin, plus haute et plus abrupte, sa charpente rocheuse plus visible. « Par ici, » dis-je aux autres, d'un ton faussement assuré, et je me remis en route. Nous descendîmes dans une dépression aux arbres clairsemés, puis remontâmes de l'autre côté, le long du lit d'un ruisseau. La chance nous sourit alors. Sur le versant suivant, nous croisâmes une sente étroite, manifestement tracée par des animaux plus petits et plus agiles que des chevaux, et nous l'empruntâmes. Pour sa taille, Manoir se débrouillait bien, mais j'entendis mon prisonnier retenir sa respiration à plusieurs reprises, alors que la piste longeait la face presque à pic de la colline. Je savais que Malta suivrait sans difficulté, mais je n'osais pas me retourner pour voir comment Casque Blanc faisait face. Je devais m'en remettre à son agilité pour amener sa maîtresse à bon port. Mon captif trouva le courage de s'adresser à moi.
« Je suis du lignage. »
Il avait murmuré ces mots avec ferveur, comme s'il devait avoir une signification particulière à mes oreilles.
« Ah bon ? » répondis-je d'un ton ironique, en feignant la surprise. « Mais vous êtes... »«
La ferme, » fis-je violemment. « Ta magie ne m'intéresse pas. Tu es un traître. Encore un mot et je te flanque par terre. » Il se renferma dans un silence stupéfait. Le chemin montait sans arrêt, et je commençais à me demander si j'avais fait le bon choix. Les rares arbres étaient tordus et décharnés, et leurs feuilles pendaient mollement dans l'atmosphère orageuse. La chair de la terre se réduisit peu à peu pour laisser voir son squelette de pierre. Enfin, j'aperçus un refuge. Moins qu'une grotte, c'était plutôt un profond abri sous roche au flanc d'une falaise. Pour l'atteindre, nous dûmes mettre pied à terre et tirer nos chevaux récalcitrants par les rênes. Je fis entrer Manoir dans la cavité. Il y faisait plus frais qu'à l'extérieur et de l'eau suintait au fond. Peut-être, à certaines époques de l'année, l'infiltration prenait-elle de l'ampleur et contribuerait-elle à creuser la grotte, mais en ce moment, elle ne laissait qu'un mince ruban d'humidité verdâtre sur le sol, avant de dégoutter le long du versant. Le renfoncement n'abritait nulle végétation dont pussent se nourrir les chevaux. Mais on n'y pouvait rien. Au moins, nous étions protégés et la position paraissait défendable. « Nous allons passer la nuit ici, » dis-je à mi-voix. J'essuyais mon front et ma nuque couverts de transpiration. L'orage s'apesantissait et la touffeur de l'air annonçait la pluie. Du doigt, j'indiquais le fond de la grotte. « Descends et assieds-toi là-bas. » ordonnai-je à mon prisonnier. Il ne répondit pas et resta sur la jument, à me toiser de son haut. Je ne lui donnai pas de seconde chance. Je le saisis par le devant de la chemise et le tirai violemment à bas de la jument. La colère décuple toujours mes forces. Je le laissai reprendre son aplomb, puis le propulsai brutalement vers la paroi rocheuse. Il la heurta, puis glissa et se retrouva assis par terre, à demi assommé.
« Ce n'est qu'un début !»
l'avertis-je, d'un ton hargneux. Laurier me regardait, blême, et les yeux écarquillés, sans doute effaré de me voir prendre le contrôle de la situation. Pendant que je tenais les rênes de son cheval, Sire Doré l'aida à descendre. Mon prisonnier ne paraissait pas vouloir tenter de s'enfuir. Aussi, sans plus m'occuper de lui, je descellai nos montures, puis établis un bivouac de fortune. Manoir tâta le filet d'eau du bout des lèvres, puis se mit à boire. Je creusai le sable au pied de la paroi du fond, afin d'approfondir la dépression, et j'eus le plaisir de voir l'eau commencer à s'y accumuler. Sire Doré soignait l'épaule de Laurier. Avec sa dextérité habituelle, il avait découpé la chemise et retroussé le tissu autour de la blessure, sur laquelle il appliquait à présent un linge humide. Le sang qui transparaissait avait une couleur sombre. Le fou et la jeune femme s'entretenaient à mi-voix, tête contre tête. Je m'approchai. « C'est grave, » murmurai-je.
« Assez, »
répondit laconiquement Sire Doré. Mais ce fut le regard que me lança Laurier qui me laissa interdit. On aurait dit que j'étais une bête enragée. En tout cas, ce n'était pas le coup d'œil agacé de quelqu'un dont on a grossièrement interrompu une conversation intime. Je me retirai en me demandant si c'était le fait que j'avais vu son épaule nue qui la gênait. Cependant, elle ne paraissait pas embarrassée de laisser Sire Doré la toucher. Bah, j'avais d'autres soucis et je ne voulais pas m'imposer. Je m'intéressais aux rares vivres qui nous restaient, surtout du pain et des pommes. C'était à peine pour nourrir trois personnes, et tout à fait insuffisant pour quatre. Je décidai froidement que notre prisonnier se passerait de repas. Il avait probablement eu des provisions et mieux mangé que nous dans la journée. Songer à lui m'amena à voir ce qu'il devenait. Il était assis de guingois, les mains liées dans le dos, et il contemplait son mollet lacéré. Je regardais moi aussi sa jambe, mais sans faire montre de la moindre compassion, je restais debout devant lui, jusqu'à ce qu'il m'adresse la parole.
« Puis-je avoir de l'eau ?»«
Tourne-toi, » répondis-je, et j'attendis impassible qu'il obéisse. Il y parvint non sans mal, et je le déliai. Il poussa un petit cri quand j'arrachai la lanière du sang coagulé qui maculait ses avant-bras, et il les ramena lentement devant lui. « Tu pourras boire là-bas, quand les chevaux auront eu leur content. » Il hocha la tête. Je savais que ses épaules devaient le faire souffrir. La mienne m'élançait encore du choc contre la branche. Le côté de son visage abîmé, lors de notre chute, avait pris une teinte sombre, et des croûtes s'y étaient formées. Un de ses yeux bleus était injecté de sang. Curieusement, ses blessures lui donnaient l'air plus jeune. Il examina son poignet déchiqueté par le loup. À ses mâchoires crispées, je compris qu'il n'osait même pas toucher la blessure. Son regard remonta peu à peu vers moi, puis se perdit au loin.
« Où est votre loup ? »
demanda-t-il. Je faillis le gifler, et il eut un mouvement de recul. « Tu ne poses pas de questions, » lui dis-je d'un ton glacial. « Tu y réponds. Où tes amis emmènent-ils le prince ?» Devant son air d'incompréhension, je maudis ma propre maladresse. Peut-être ignorait-il jusque-là l'identité du jeune garçon. Mais ce qui était fait, et de toute manière, j'aurais probablement dû le tuer. Je reconnus la patte d'Imbre dans cette dernière réflexion, et l'écartai. « Le garçon à la marguette, » expliquai-je, « où l'emmène-t-il ? » Il avala péniblement sa salive.
« Je ne sais pas, »
répondit-il d'un ton maussade. Il mentait, et j'eus envie de l'étrangler, pour l'obliger à me révéler la vérité. Sa présence constituait une menace excessive pour moi. Je me redressai brusquement avant d'avoir le temps de laisser libre cours à ma fureur. « Si, tu le sais. Je vais t'accorder un moment pour réfléchir à tous les moyens par lesquels je pourrais te forcer à parler, et puis je reviendrai. » Je commençai à m'éloigner, puis plaquai un sourire avenant sur mes lèvres, et me retournai. « Ah, et si tu crois l'instant bien choisi pour essayer de t'échapper, eh bien, après quelques pas à l'extérieur, tu ne te demanderas plus où est mon loup. » Il y eut une explosion de lumière blanche devant notre abri. Les chevaux hennirent de peur, et deux battements de cœur plus tard, un coup de tonnerre ébranla le sol. Je clignai les paupières éblouies, et puis un déluge de pluie s'abattit devant l'entrée de notre grotte, comme si les vannes d'un barrage venaient de s'ouvrir. L'obscurité se fit soudain au dehors. Une rafale de vent poussa le rideau de pluie dans notre refuge, puis tourna. La chaleur étouffante de la journée disparut tout à coup. J'apportai de quoi manger à Sire Doré et à Laurier. La jeune femme paraissait un peu hébétée.
Le fou l'avait confortablement adossé à une selle sur laquelle il avait jeté une couverture. De la main gauche, elle écarta les mèches de ses cheveux en bataille, tandis que la droite reposait sur ses cuisses. Sa blessure avait dû être plus profonde que je ne l'avais cru, car du sang avait coulé le long de son bras pour se coaguler entre ses doigts et autour de ses ongles. Sire Doré prit le pain et les pommes que je lui offrais. Je regardais la cataracte qui tombait devant l'entrée de la grotte et secouais la tête. La pluie va effacer toute piste. L'avantage, c'est que les villageois vont peut-être se contenter de récupérer leurs morts et de rentrer chez eux. L'inconvénient, c'est que nous allons perdre la trace du prince. À présent, il faut faire parler le prisonnier si nous voulons le retrouver. Je m'en occuperai à mon retour. Je dégrafai ma ceinture d'épée et l'attendis au fou et à Laurier. Mais ni l'un ni l'autre ne fit mine de la prendre. Je dégainai donc l'arme et la posai par terre près d'eux. « Vous risquez d'en avoir besoin, » murmurai-je. « Si c'est le cas, pas d'hésitation, tuez-le. S'il réussit à s'échapper et à prévenir ses amis, nous n'aurons plus aucune chance de remettre la main sur le prince. » Je lui ai laissé un peu de temps pour réfléchir. Ensuite, je lui arracherai la vérité. En attendant, je sors chercher du bois pour le feu tant qu'il n'est pas trop humide. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a personne sur nos traces. Laurier porta sa main valide à sa bouche. Elle paraissait sur le point de vomir. Sire Doré jeta un coup d'œil au prisonnier, puis me regarda. Il avait l'air troublé, mais il comprenait sûrement que je devais m'assurer qu'Œil de Nuit ne risquait rien.
« Prenez mon manteau, » fit-il.
Il serait aussi vite trempé que le reste. Je me changerai en revenant. Il ne prononça pas un mot pour m'exhorter à la prudence, mais je le lus dans ses yeux. Je hochai la tête, m'armai de courage, et sortis sous le déluge. C'était en tout point aussi froid et désagréable que je l'avais prévu. Je restai un moment immobile, les épaules voûtées, les yeux plissés pour essayer de distinguer ce qui m'entourait à travers le rideau de pluie grisâtre. Puis, j'inspirai profondément et modifiai consciemment ma façon d'appréhender le monde. Comme Rolf le Noir me l'avait un jour démontré, une grande partie du malheur des hommes provient des espoirs qu'ils nourrissent. Il allait de soi pour moi, en tant qu'humain, que je pouvais m'abriter au chaud et au sec quand bon me semblait. Les animaux n'entretiennent pas de telles croyances. Il pleuvait, mais alors, la part de loup en moi était à même de l'accepter. Se trouver sous la pluie impliquait d'avoir froid et d'être mouillé. Une fois que j'eus reconnu le fait et cessé de le comparer avec ce que j'aurais préféré, la situation me parut beaucoup plus supportable, et je me mis en route. La pluie avait transformé le chemin qui montait à la grotte en petit torrent boueux, et le sol était glissant. Même en sachant que nous avions laissé des empreintes, j'eus du mal à les repérer. Et je formais le vœu que la combinaison de pluie, de pénombre et d'absence de traces visibles persuade nos poursuivants de regagner leur foyer. Certains étaient sûrement déjà retournés au village annoncer la découverte des cadavres. Pouvais-je oser espérer qu'ils avaient tous fait demi-tour en emportant les dépouilles de leurs camarades? Au bas de la colline, je fis halte et tendis mon esprit avec précaution. « Où es-tu ? » Je ne reçus pas de réponse. Un éclair zébra le ciel, le tonnerre éclata peu après et la pluie tomba avec une fureur renouvelée. Je songeais à mon loup tel que je l'avais quitté, blessé, fatigué, chargé d'dents. Et je rejetais toute prudence pour hurler ma terreur au ciel.
« Œil de Nuit !»«
Moi, de bruit, j'arrive !» Il était aussi mécontent de moi que d'un louveteau qui glapit inconsidérément. J'interrompis mon vif et poussai un grand soupir de soulagement. S'il parvenait encore à s'irriter contre moi, il n'était pas en aussi mauvais état que je l'avais craint. Je me mis en quête de bois et trouvai quelques branches presque sèches sous l'abri d'un arbre abattu depuis de longues années. J'arrachai au tronc plusieurs poignées d'écorce décomposée, cassai les branches mortes pour les transporter plus aisément, puis ôtai ma chemise dans laquelle je roulais mon amadou et mon combustible, avec l'espoir relatif de les maintenir au sec. Comme je remontais non sans mal à la grotte, la pluie cessa aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le soir s'emplit du bruit des gouttes, tombant des feuilles et claquant sur la boue, et de l'eau ruisselante qui cherchait à s'infiltrer dans la terre détrempée. Non loin, un oiseau de nuit lança de notes prudentes. « C'est moi !» annonçai-je à mi-voix, en approchant du surplomb rocheux. J'entendis en réponse un doux reniflement de manoir. C'est à peine si je distinguais l'intérieur de la grotte, mais au bout de quelques instants, mes yeux s'habituèrent à la pénombre. Sire Doré avait sorti mon briquet à silex, et la chance aidant, je réussis à allumer un petit feu au fond de notre abri. La fumée rampa au plafond et finit par trouver l'issue. Je sortis pour vérifier qu'elle n'était pas trop visible du bas de la colline, puis, satisfait, je rentrai ajouter du bois à la flambée. Laurier se redressa et s'approcha de sa lumière chaleureuse. Elle paraissait un peu remise, mais la douleur se lisait toujours sur ses traits. Je la vis décocher un regard oblique à l'archer. Son expression était accusatrice, mais aussi empreinte de pitié. J'espérais qu'elle ne chercherait pas à s'interposer dans l'interrogatoire que j'allais devoir mener. Sire Doré fouillait dans son paquetage en marmonnant, et il finit par en tirer une de mes chemises bleues de domestique. « Merci, » dis-je en la prenant. À la lisière du cercle de lumière, mon prisonnier se tenait assis, les épaules voûtées. Je remarquai les bandages propres à son mollet et à son poignet, et je reconnus les nœuds dont se servait le fou. Ma foi, je ne lui avais pas demandé de ne pas s'occuper de l'homme. J'aurais dû me douter qu'il le soignerait. Je retirai ma chemise dégoûtante et la laissai tomber par terre. Comme je secouais la nouvelle avant de l'enfiler, la voix de Laurier s'éleva doucement des ombres. « Vous avez une sacrée cicatrice ?»«
Laquelle ?»
demandai-je sans réfléchir.
« Au milieu du dos, »
répondit-elle avec la même douceur.
« Ah, celle-là !»
Je m'efforçais de prendre un ton léger. « C'est une flèche dont la pointe n'est pas sortie quand on a retiré la hampe. »
D'où votre inquiétude tout à l'heure?
Merci. Et elle me sourit. Cela revenait presque à me présenter des excuses. Je ne trouvais rien à répondre, désarmé par ses paroles et son sourire. Et puis, je me rappelais que je portais l'amulette de Gina autour du cou, bien visible. Ah! Je finis d'enfiler ma chemise, pris les choses que Sire Doré me tendait, et me retirai dans l'ombre, derrière les chevaux, pour me changer. Le suintement de la paroi du fond avait désormais les dimensions d'un ruissellement régulier, et un petit filet d'eau courait à présent devant les montures pour aller dégouliner au dehors par l'entrée de la grotte. Ma foi, à défaut d'herbe, nos bêtes auraient au moins de quoi boire. Je recueillis un peu d'eau dans le creux de ma main et la goûtai. Elle était un peu terreuse, mais potable. Je retournai auprès du feu et Sire Doré m'offrit d'un air solennel un bout de pain et une pomme. C'est seulement à ma première bouchée que je me rendis compte combien j'étais affamé. Cependant, même si la totalité n'eût pas suffi à me rassasier, je me restreignis à ne manger que la pomme et la moitié du pain. Malheureusement, j'avais aussi faim après qu'avant. Je m'efforçais d'accepter le fait comme je l'avais fait pour la pluie. Car c'était là, encore, une idée typiquement humaine de croire qu'on a droit à des repas à intervalles réguliers. Elle est rassurante, mais sans grand intérêt pour la survie. Je me le répétai plusieurs fois, puis levai les yeux et m'aperçus que Sire Doré m'observait. Laurier s'était placé une couverture sur les épaules et somnolait. À mi-voix, je demandai. « A-t-il dit quelque chose pendant que vous le bandiez ?» Sire Doré prit un air songeur, puis un sourire craquela sa façade, et le fou répondit.
« Oui ? Aïe !»
Je souris à mon tour, puis, avec un effort de volonté, m'obligeai à songer à ce que j'allais peut-être devoir faire. Les yeux de Laurier étaient clos, mais je baissai encore la voix, pour n'être entendu que du fou. Je dois apprendre tout ce qu'il sait des projets de ses amis. Ils sont organisés, et ils ne font pas de sentiments. Nous n'avons pas affaire à de simples viviers qui cachent un garçon fugueur. Il faut que je lui fasse avouer où ils emmènent le prince. Le sourire s'effaça du visage du fou, mais cette fois, l'air hautain de Sire Doré ne le remplaça pas.
« Par quel moyen ? »
demanda-t-il d'un ton angoissé. « Par tout ce qu'il faudra, » répondis-je, un pas vide, avec une colère sous-tendue par l'horreur que je m'inspirais. Je songeais qu'il allait compliquer l'accomplissement de mon devoir. Or, c'était le prince et sa sauvegarde qui comptaient.
pas les états d'âme du fou, ni le jeune homme du lignage assis au fond de la grotte. Même mes propres émotions n'avaient aucune importance en l'occurrence. J'œuvrais pour Imbre, pour ma reine, pour la lignée des loin-voyants, pour le prince lui-même. J'avais été formé à ce genre de sale petite besogne. Elle faisait partie du travail discret d'un assassin. Je me sentis devenir froid et dur comme l'acier. Je détournai les yeux du regard effrayé du fou et me levai. Mieux valait s'y mettre tout de suite, faire parler le prisonnier, puis l'éliminer. Je refusais de courir le risque de le relâcher, et l'emmener n'aurait fait que nous retarder. Ce ne serait pas la première fois que je tuerais au nom des loin-voyants. Je n'avais jamais dû torturer personne pour obtenir des renseignements, mais j'avais été à bonne école dans les cachots de Royal, où j'avais appris mes leçons de première main. Je regrettais seulement que les circonstances ne me laissent pas d'autre solution. Dos au feu, je me dirigeais vers les ombres où était assis le jeune homme, adossé à la paroi de pierre. Je restais un moment debout devant lui, à le regarder de tout mon haut. J'espérais que notre face-à-face le terrifiait autant que moi. Quand il leva enfin les yeux vers moi, je demandai d'une voix grondante « Où l'emmène-t-il »
« Je ne sais pas, » dit-il, d'un ton sans conviction.
Du bout de ma botte, je lui donnai un violent coup de pied sous les côtes, calculé pour lui couper le souffle sans lui causer de lésions graves. L'heure n'était pas encore venue pour cela. Il poussa un cri perçant et se roula en boule. Sans lui laisser le temps de se remettre, je l'attrapai par le devant de la chemise et le relevai brutalement. J'avais l'avantage de la taille, aussi je serrai les dents et le tins en l'air à bout de bras. Il agrippa mes poignets et tenta faiblement de me faire lâcher prise. Il essayait encore de retrouver sa respiration.
« Où ?»
répétai-je. Dehors, la pluie se remit à tomber avec un rugissement sifflant.
« On ne me l'a pas dit !»
fit-il d'une voix étranglée, et la miséricorde des dames donna envie de tout mon cœur de le croire. Je ne voulus pas prendre le risque. Je le plaquai durement contre la paroi, et sa tête heurta le rocher. Le choc fit hurler de douleur mon épaule meurtrie. Je vis le garçon se mordre la lèvre pour se retenir de crier. Derrière moi, Laurier poussa une exclamation étouffée, mais je ne me retournai pas.
« Que ce soit maintenant ou plus tard, je te garantis que tu vas parler !»
dis-je au jeune homme que je tenais toujours contre la paroi. Malgré l'horreur que je m'inspirais, sa résistance stupide attisait ma colère contre lui, et j'y puisais la volonté dont j'avais besoin pour continuer. Plus vite on en finirait, moins il aurait à supporter de souffrance. Donc, par compassion pour lui, je devais me montrer le plus brutal possible. Plus tôt il parlerait, plus tôt ce serait terminé. Il avait choisi lui-même le chemin qui l'avait mené à cette situation. C'était un traître conjuré avec ceux qui avaient poussé Devoir à quitter sa mère. L'héritier du trône des Siluchés courait peut-être un danger mortel, et ce que savait le jeune homme pouvait me permettre de le sauver. Il était seul responsable de ce que je lui infligeais. Un sanglot d'enfant le secoua, puis il reprit son souffle.
« Pitié !»
murmura-t-il. Je m'endurcis et ramenai mon poing en arrière.
« Tu avais promis, plus jamais !» Plus jamais de ces morts qui ne rapportent pas de viande et qui forgisent le cœur.
Œil de nuit était épouvanté.
Ne t'occupe pas de ça, mon frère. J'y suis obligé. Non, tu n'y es pas obligé. J'arrive. J'arrive aussi vite que je puis. Attends-moi, mon frère, je t'en prie. Attends-moi.
Je rompis le contact avec les pensées du loup. Il était temps d'en finir et de briser le traître. Mais le traître inflexible ressemblait beaucoup à un enfant qui tente de toutes ses forces de garder son secret, et des larmes coulaient sur ses joues. Le loup m'avait dépouillé de ma résolution. Je m'aperçus que j'avais posé mon prisonnier à terre. Jamais je n'avais eu la passion de la torture. J'étais bien placé pour savoir que certains prennent plaisir à priver les autres de tout ressort, mais les supplices que j'avais supportés dans les cachots de Royal m'avaient enfermé pour toujours dans un rôle de victime, et je partagerais tous les tourments que je pourrais infliger à mon prisonnier. Pire encore, je me verrais par ses yeux alors que je deviendrais pour lui ce que peine avait été pour moi.
Je détournai le regard avant qu'il pût y lire ma faiblesse. Mais cela n'améliora pas ma situation, car je découvris le fou debout, près de moi, et toute l'horreur que je m'efforçais de réprimer en moi s'affichait sur ses traits. À cette révulsion se mêlait une pitié qui me fut comme un coup de poignard. Malgré les années, il voyait l'enfant battu qui se pelotonnait toujours au fond de moi. Quelque part, je me tapissais, à jamais terrifié. Quelque part, ce qu'on m'avait fait subir me laissait à jamais impuissant, et il était intolérable que quelqu'un le sût, même mon fou. Surtout lui, peut-être.
« Ne me dérangez pas !» lui dis-je durement, d'une voix que je ne connaissais pas. « Allez soigner la grand-veneuse !»
On aurait cru que je venais de le frapper. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je serrai les dents, m'endurcis le cœur, et resserrai lentement ma prise sur le col de mon prisonnier. Il avala péniblement sa salive, puis sa respiration devint sifflante. Son regard bleu papillonna sur ma balafre et mon nez cassé. Je n'avais pas le visage d'un homme sensible à la pitié ni civilisé. « Traître !» lui dis-je intérieurement, sans le quitter des yeux. « Tu trahis ton prince, tout comme Royal a trahi Vérité. » Combien de fois j'avais imaginé ce qu'aurait souffert Royal si j'avais eu l'occasion de me venger. Ce garçon en méritait autant. Il allait signer l'arrêt de mort de la lignée des loin-voyants si je ne lui arrachais pas son secret. Je respirais lentement, le regard braqué sur lui, et je laissais ses réflexions monter au premier plan de mes pensées. Je sentis qu'elles modifiaient le pli de ma bouche et l'expression de mes yeux, et ma résolution s'affirma. Il était temps d'en finir, quel qu'en soit le moyen. Dernière chance, déclarai-je âprement, tout en dégainant mon poignard. J'observai mes mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Je plaçai la pointe de la lame en dessous de son œil gauche et l'enfonçai légèrement dans la peau. Le garçon plissa les paupières, mais il savait comme moi que cela ne le protégerait pas. Où ?
Arrêtez-le ! Fit Laurier d'un ton implorant, la voix tremblante. Je vous en prie, sire doré, obligez-le à s'arrêter.
À ces mots, je sentis mon prisonnier se mettre à grelotter. Il devait être terrifiant pour lui de se rendre compte que mes propres compagnons redoutaient le sort que je lui réservais. Un sourire naquit sur mes lèvres et se figea en rictus.
« Tom Blaireau !»
dit Sire Doré, impérieux. Je ne me retournai pas. Il était aussi responsable qu'Imbre et Kétriken de m'avoir entraîné dans cette affaire. Ce qui se passait était inévitable. Qu'il voit maintenant où menait la route sur laquelle il m'avait engagé. Si cela ne lui plaisait pas, il pouvait toujours regarder ailleurs, pas moi. J'étais obligé de me salir les mains.
Non, rien ne t'y force, et moi, je le refuse. Je ne me lierai pas à ça. Je ne le permettrai pas.
Je sentis sa présence plus que je ne la vis. Peu après, la faible lumière du feu éclaira sa silhouette, puis mon loup entra, d'une démarche mal assurée. Il dégoulinait de pluie, et le jarre de sa fourrure pendait en mèches pitoyables. Il s'avança de quelques pas dans la grotte, puis s'ébroua. Le contact de son esprit avec le mien me donna l'impression d'une main ferme posée sur mon épaule. Il tourna mes pensées vers lui, vers nous deux, et repoussa toute autre préoccupation.
Mon frère, changeur, je suis très fatigué. J'ai froid, et je suis trempé. J'ai besoin de toi.
Il s'approcha encore, puis s'appuya contre ma jambe, et me demanda doucement.
À manger ?
Physiquement, contre moi, il chassa une obscurité qui résidait au fond de mon esprit, sans que j'en eusse conscience, et m'emplit de sa nature de loup, et de l'instant présent qui était sa seule réalité. Je lâchai mon prisonnier qui recula en trébuchant. Il s'efforça de rester debout, mais ses genoux fléchirent, et il se retrouva brutalement assis par terre. Sa tête tomba en avant, et je crus entendre un sanglot étouffé. C'était sans importance à présent. J'écartai Fitz Chevalerie loin-voyant pour devenir le compagnon du loup. Je repris mon souffle.
Le soulagement de revoir Œil de Nuit m'ôtait toute force. Je m'accrochais à sa présence et je la sentis me soutenir. Je t'ai gardé un peu de pain.
C'est mieux que rien.
Tremblant, serré contre moi, il m'accompagna près du feu et de sa chaleur bienfaisante. Puis il attendit patiemment que je retrouve le morceau de miche. Je m'assis contre lui, sans m'arrêter à sa fourrure détrempée, et lui donnai le pain, petit bout par petit bout. Quand il eut fini de manger, je passai ma main sur son échine pour chasser l'eau de ses poils. Elle n'avait pas pénétré jusqu'à la peau, mais je percevais qu'il avait mal et qu'il était épuisé. Pourtant, c'était son amour immense qui m'enveloppait et me rendait à moi-même. Une pensée me vint. Comment avance la guérison de tes blessures?
Lentement.
Je passai la main sous son ventre. De la boue l'avait éclaboussée et s'était introduite dans ses plaies. Il avait froid, mais les entailles enflammées étaient brûlantes, gagnées par l'infection. Le pot d'onguent du seigneur doré se trouvait toujours dans mon sac. J'allais le chercher, et à ma grande stupéfaction, Œil de Nuit me laissa sans rechigner enduire de baume ses longues entailles boursouflées. Je sentis soudain la présence du fou près de nous, et levai les yeux. Il s'agenouilla et posa les deux mains sur la tête du loup comme pour le bénir. Puis, regardant Œil de Nuit dans les yeux, il dit
« Tu ne peux pas savoir combien je suis soulagé de te revoir, mon vieil ami. »
Il y avait une trace de larmes dans sa voix, mais c'est une ombre de méfiance que j'y perçus quand il me demanda
« Quand vous aurez terminé avec l'onguent, pourrez-vous me le donner pour l'épaule de Laurier ?»«
Naturellement. » répondis-je à mi-voix. J'étalai encore un peu de baume sur les blessures d'Œil de Nuit, puis tendis le pot au fou. Il se pencha pour le prendre et me glissa à l'oreille.
« Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et je ne pouvais rien faire. Je crois que nul autre que lui n'aurait pu te ramener à toi. »
Comme il se relevait, le dos de sa main effleura ma joue, mais j'ignorais si c'était lui ou moi qu'il essayait de rassurer. Je m'apitoyai un instant sur nous deux. Ce n'était pas fini. Nous avions seulement reculé pour mieux sauter. Avec un soupir, Œil de Nuit s'étira près de moi, puis il posa sa tête sur ma cuisse, le regard tourné vers l'entrée de la grotte.
« Non, c'est fini. Je l'interdis, changeur. »
Je dois trouver le prince, et cet homme sait où il est. Je n'ai pas le choix.
Ton choix, c'est moi. Aie foi en moi. Je pisterai le prince pour toi.
Après cet orage, ça m'étonnerait qu'il reste une piste à suivre.
Fais-moi confiance. Je te le retrouverai, je te le promets. Mais ne fais pas cette chose.
Œil de Nuit. Je ne peux pas le laisser vivre. Il en sait trop. Il dédaigna cette pensée, du moins apparemment, et déclara
« Avant de le tuer, pense à ce que tu lui voles. N'oublie pas ce que c'est d'être vivant. »
Et sans laisser le temps de répondre, il me prit dans les raies de ses sens et m'emporta dans son maintenant de loup, laissant à la porte fixe chevalerie et toutes ses préoccupations. Nous regardâmes la nuit ténébreuse par l'entrée de l'abri. La pluie avait éveillé toutes les odeurs des collines, et il me les lut. Elle produisait sur le sol un son sifflant qui masquait tout autre bruit. À côté de nous, le feu baissait. À la lisière de ma conscience, je percevais le fou qui l'alimentait, de façon à le maintenir actif, tout en préservant notre réserve de bois pour la longue nuit à venir. Je sentais la fumée, les chevaux, les autres humains. Le loup avait eu l'intention de me dépouiller de ma nature d'homme, avec ses soucis d'homme, pour me faire redevenir loup, et le résultat avait dépassé ses prévisions. Peut-être était-il plus là qu'il ne l'avait cru, ou peut-être le chuintement hypnotique de la pluie nous poussa-t-il dans l'intimité de deux louveteaux que ne séparent nulle frontière. Quoi qu'il en fût, je m'enfonçais en lui, dans son esprit, dans son âme, puis dans son corps. Là, j'étendis ma perception de sa chair et m'aperçus qu'il ne possédait plus de réserve.
La fatigue qui le tenaillait ne laissait place à rien d'autre. Il s'éteignait, comme le feu. Il s'alimentait, mais cela ne l'empêchait pas de se réduire peu à peu. La vie est un équilibre. On tend à l'oublier alors qu'on vit, insouciant, chaque jour après l'autre. On mange, on boit, on dort, et on croit qu'on se réveillera toujours le lendemain, qu'on sortira toujours, revigoré d'un bon repas et de quelques heures de repos. Les plaies ne peuvent que guérir. La douleur s'estompe avec le temps. Et, même quand les blessures cicatrisent moins vite, quand la douleur s'atténue le jour pour revenir dans toute son intensité la nuit, quand le sommeil n'est plus réparateur, on croit encore que, le lendemain, tout aura repris son équilibre et qu'on pourra continuer à vivre comme d'habitude. Mais, à un certain moment, le délicat équilibre s'est rompu et, on peut bien faire tous les efforts du monde, on entame la lente chute, la transformation de l'organisme qui s'entretient seul en celui qui lutte, becs et ongles, pour demeurer ce qu'il était naguère. Le regard perdu dans l'obscurité du dehors, j'eus soudain l'impression que chaque expiration du loup était plus longue que son inspiration précédente. Comme un bateau en train de sombrer, il s'enfonçait chaque jour davantage dans l'acceptation d'une douleur et d'une léthargie croissante. Il dormait à présent d'un sommeil lourd, toute prudence oubliée, sa large tête posée sur mes jambes. Je repris furtivement mon souffle, puis le caressait doucement entre les oreilles. Adolescent, j'avais servi de source d'énergie à Vérité. Il avait posé sa main sur mon épaule, et, par le biais de son art, il avait puisé en moi la force qui lui manquait pour repousser les pirates rouges. Je me rappelais aussi ce que j'avais fait au loup plus récemment au bord d'une rivière. J'étais entré en contact avec lui grâce au vif, mais je l'avais soigné à l'aide de l'art. Je savais depuis quelque temps que les deux magies pouvaient s'associer, et j'avais même craint que mon emploi de l'art fût définitivement entaché de vif. À présent, cette crainte se muait en l'espoir de pouvoir utiliser mes deux magies au profit du loup, car si l'art pouvait servir à prendre de la force, il pouvait aussi en donner. Je fermais les yeux et m'efforçais de respirer régulièrement. Les barrières du loup étaient abaissées. Mes préoccupations de loin voyant absentes de mon esprit. Seul comptait œil de nuit. Je m'ouvris et déversai en lui mon énergie, ma vitalité, les jours de mon existence. C'était comme une longue exhalaison, un flot de vie qui sortait de mon corps et s'infiltrait dans le sien. La tête me tournait, mais je sentis le loup s'affermir, comme la flamme d'une mèche dont on remplit la réserve d'huile. J'envoyais une nouvelle exhalaison de vie en lui et je sentis la fatigue m'envahir. C'était sans importance. Ce que je lui avais donné l'avait stabilisé, mais non réparé. Je devais lui transmettre davantage de ma force. Plus tard, je pourrais toujours manger et me reposer pour retrouver ma propre vitalité. Pour l'instant, le plus urgent était de subvenir à ses besoins. Sa conscience flamboya soudain comme une torche.
Non!
Avec cette interdiction absolue, il eut un sursaut et s'écarta physiquement. Puis, il se sépara de moi, en dressant brutalement des murs mentaux qui me jetèrent presque hors de son esprit. Ses pensées explosèrent dans ma tête.
« Si tu recommences, je te quitte complètement et pour toujours. Tu ne verras plus, tu ne toucheras plus ma conscience, et tu ne sentiras même plus mon odeur près de tes pistes. C'est bien compris ?»
J'avais l'impression d'être un chiot qui vient de se faire violemment secouer, puis rejeté. La brusque rupture du contact entre nous me laissait désorienté. Le monde dansait autour de moi.
« Pourquoi ?»
demandai-je, tremblant de la tête aux pieds.
« Pourquoi ?»
Il parut sidérer que je pose une telle question. À cet instant, j'entendis un bruit de pas furtif sur le sable. Je me tournai et vis mon prisonnier qui se précipitait hors de la grotte. Je me relevai d'un bond et me lançai à sa poursuite. Dans les ténèbres et la pluie, je me heurtai à lui et nous dégringolâmes le long de la pente caillouteuse. Il poussa un cri pendant notre chute. Je le saisis et ne le lâchai plus jusqu'à ce que nous nous arrêtions au milieu des buissons et des pierres du bas de la colline. Meurtri, Nous restâmes un instant étourdis, haletants, tandis que des cailloux rebondissaient autour de nous. Je sentais la garde de mon poignard sous ma hanche. Je pris l'archer à la gorge.
« Je devrais te tuer sur le champ !»
grondai-je. Au-dessus de nous, dans l'obscurité, j'entendis des voix interrogatrices.
« Taisez-vous »
hurlai-je, et elles obéirent.
« Lève-toi »
dis-je durement à mon prisonnier.
« Je ne peux pas !»
Il chevrotait. « Debout !» ordonnai-je. Je me redressai tant bien que mal, tout en le tenant, puis je le remis sur pied.
« En avant !»
On retourne à la grotte. Si tu essayes encore de t'enfuir, je te réduis en bouillie. Il me crut. En réalité, les efforts que j'avais fournis pour rendre la santé à Œil de Nuit m'avaient épuisé, et c'est avec peine que je restais à sa hauteur alors que nous remontions la pente glissante. Comme nous progressions avec force dérapage, une migraine d'art se mit à peindre des éclairs sur mes paupières. Avant même de parvenir à la grotte, mon captif et moi étions couverts de boue. À l'intérieur, je ne prêtais nulle attention à la mine angoissée du seigneur doré, ni aux questions de Laurier, et m'occupais de lier solidement les poignets de l'archer derrière son dos et de lui ligoter les chevilles. Aiguillonné par la douleur qui martelait mes tempes, je le manipulais avec brutalité, tout en sentant sur moi le regard du fou et de Laurier, qui ne faisait qu'exaspérer la colère et la honte que m'inspirait mon attitude.
« Dors bien !»
dis-je au garçon, d'un ton venimeux quand j'en eus terminé avec lui. Je me reculai d'un pas et dégainai mon poignard. Laurier poussa un cri étouffé et le prisonnier laissa échapper un sanglot. Mais je me contentai de me rendre au ruisselet pour nettoyer la gaine et le fourreau de mon arme. Après quoi, je me lavai les mains, puis me passai de l'eau fraîche sur le visage. Je m'étais froissé un muscle en dévalant la pente. Et Œil de Nuit émit un petit gémissement inquiet en percevant ma douleur. Je serrai les dents et m'efforçai de bloquer la sensation. Comme je me relevais, mon prisonnier déclara
« Vous êtes un traître à votre propre famille !»
La peur de la mort donnait au garçon un courage artificiel. Il s'adressait à moi d'un ton provoquant, mais il n'osait pas me regarder en face. Accusatrice, sa voix devint stridente.
« Combien vous a-t-on payé pour nous livrer? Quelle récompense vous a-t-on promise, à votre loup et à vous, si vous ramenez le prince? A-t-on pris quelqu'un de votre entourage en otage? Votre mère? Votre sœur? Ceux qui vous ont piégé, vous ont-ils juré de vous laisser la vie sauve, à vous et à votre famille, si vous menez votre mission à bien? Ils ont menti, croyez-moi, ils mentent toujours !»
Il chevrotait encore, mais il parlait plus fort.
« Le lignage! Traque le lignage! Et pourquoi ?» Pour permettre aux loin-voyants de nier que le sang du prince Pie coule dans leurs veines. À moins que vous ne soyez à la solde des ennemis de la reine et de son fils. Voulez-vous vraiment le ramener pour le voir dénoncé comme membre du lignage et les loin-voyants renversés par ceux qui se croient capables de mieux gouverner?
J'aurais dû écouter ce qu'il disait sur les loin-voyants, mais j'entendais seulement qu'il révélait ce que j'étais. Il s'exprimait avec assurance. Il savait tout. Je tentais de repousser ces affirmations. Des accusations n'ont ni queue ni tête. J'ai prêté serment d'allégeance aux loin-voyants, et je sers ma reine, répondis-je en sachant que j'avais tort de mordre l'hameçon. Je vais sauver le prince, peu importe l'identité de ceux qui le retiennent prisonnier ou le rapport qu'ils ont avec moi.
Le sauver? Le remettre en esclavage, vous voulez dire?
L'archer tourna les yeux vers Laurier, comme s'il cherchait à la convaincre.
« Là où il va, le garçon à la Marguette sera en sécurité, et il nous accompagne, non en tant que captif, mais comme quelqu'un qui s'apprête à retrouver sa famille. Mieux vaut être un pie libre qu'un prince en cage. Vous le trahissez donc, à double titre, car c'est à un loin-voyant que vous avez prêté serment de le servir, et un de vos frères du lignage. Allez-vous le traîner de force là où on le pendra, on le démembrera, et on le brûlera comme c'est arrivé à tant d'entre nous ? « Comme a fini mon frère il y a deux nuits ?»
Sa voix s'étrangla sur ces derniers mots.
« Arnaud n'avait que 17 ans, et il n'avait même pas le don, mais il était apparenté à ceux du lignage, et il avait choisi de se rallier à nous, quitte à donner sa vie pour nous. Il s'était proclamé pie, et il s'était joint à nous parce qu'il se savait des nôtres, même si la magie n'opérait pas chez lui. »
Il reporta son regard sur moi.
« Et vous voici, du lignage autant que moi, vous et votre loup de vif, prêt à nous pourchasser jusqu'à la mort. Continuez de mentir. Vous ne faites que vous humilier. Croyez-vous que je ne perçoive pas vos échanges ?
Je ne le quittais pas des yeux, tandis que j'essayais, malgré les pulsations de la migraine, d'estimer l'impact de ses paroles. En révélant mon secret devant Laurier, il n'avait pas seulement mis ma vie en danger, il m'avait fermé de nouveau les portes de Castelserre. Je ne pouvais plus y retourner à présent, que la jeune femme savait ce que j'étais. Je lui jetai un coup d'œil. Sous le coup de l'horreur, son visage était devenu exsangue, et je vis dans son regard son opinion de moi se modifier. Le fou, lui, restait impassible, comme s'il tentait de dissimuler tant d'émotions à la fois qu'il ne pouvait plus afficher la moindre expression. Avait-il déjà entrevu toutes les conséquences ? C'était comme un poison qui contaminait tout ce qu'il touchait. Tous savaient à présent que j'avais le vif. J'étais donc condamné à tuer non seulement l'archer, mais Laurier aussi. Sinon, je demeurerais toujours vulnérable. Cependant, ce serait l'anéantissement de tout ce qui existait entre le fou et moi. En tant qu'assassin, je ne pouvais en tirer qu'une conclusion. Je devais le tuer, lui aussi, afin qu'il ne puisse jamais me regarder avec ses morts dans les yeux. Et tu pourrais aussi me tuer, et te tuer à ton tour. Ainsi, personne ne saurait jamais tout ce que nous avons partagé. Ça resterait notre petit secret honteux que nous emporterions tous deux dans la tombe. Tue-nous donc tous, plutôt que de reconnaître devant une seule personne ce que nous sommes.
Avec la froide précision d'un doigt accusateur, la pensée frappa juste sur le terrible dilemme qui me déchirait depuis la capture de l'archer. Non, depuis l'instant où j'avais compris que, tenu par mon serment d'allégeance au loin voyant, je devais me dresser contre le lignage et aller à l'encontre des désirs propres du prince.
« Vous avez vraiment le vif ?»
me demanda Laurier d'une voix lente. Elle avait murmuré, mais sa question sonna comme une volée de cloches à mes oreilles. Tous me regardaient. Le mensonge était sur le bout de ma langue, mais je ne pus le prononcer. Serait été renier le loup. Je m'étais éloigné du lignage, mais le lien qui me rattachait à lui avait des racines plus profondes que mes émotions ou mes serments d'allégeance. Je ne vivais peut-être pas comme les autres membres du lignage, mais les menaces qui planaient sur eux pesaient sur moi aussi. Cependant, j'étais l'homme lige des loin-voyants, et leur sang était aussi le mien.
Que dois-je faire ? Ça qui est juste, soit ce que tu es, à la fois des loin-voyants et du lignage, même si nous devons en mourir. Ce sera plus facile que ces reniements éternels. Je préfère périr fidèle à nous-mêmes.
J'avais l'impression que mon âme venait d'être arrachée à une fondrière. La douleur de la migraine d'art s'atténua soudainement, comme si le fait de prendre moi-même une décision m'avait délivré de je ne sais quoi, et je pus enfin parler. « Oui, j'ai le vif, » déclarai-je calmement, « et j'ai prêté serment d'allégeance aux loin-voyants. Je sers ma reine, ainsi que mon prince, même s'il ne le reconnaît pas encore. Je ferai tout ce que les circonstances exigeront de moi pour tenir ma promesse envers eux. » Je me tournai vers le garçon et le regardai comme l'aurait fait un loup, puis exprimai ce qu'il savait aussi bien que moi. Ceux du lignage ne l'ont pas poussé à s'enfuir par loyauté ni affection. Ils ne cherchent pas à le libérer. Ils l'ont emmené dans l'espoir de le rallier à leur cause. Après quoi, ils se serviront de lui, et ils n'y mettront pas plus de sentiments qu'ils n'ont montré de pitié pour s'en emparer. Mais je ne les laisserai pas faire. Je suis prêt à tout pour lui épargner ce sort. Je découvrirai où il le séquestre, et je le ramènerai chez lui, quoi qu'il doive m'en coûter. Je vis l'archer blêmir.
« Je suis un fidèle du prince Pi, » dit-il d'une voix hachée. « Savez-vous ce que cela signifie ? Que je refuse d'avoir honte d'appartenir au lignage, que je déclare ouvertement ce que je suis et que j'affirme mon droit à utiliser ma magie. Je ne trahirai pas les miens, même si je dois pour cela affronter la mort. »
Cette déclaration visait-elle à démontrer que sa résolution ne le cédait en rien à la mienne ? Dans ce cas, il s'était trompé.
Il avait pris mes propos pour une menace. Un malentendu encore. C'était sans importance, et je ne me donnais pas la peine de lui expliquer son erreur. Il ne mourrait pas de passer une nuit à trembler pour sa vie. Peut-être même, au matin, aurait-il décidé de me révéler où ses amis emmenaient le prince. Sinon, mon loup et moi retrouverions la piste. « La ferme, lui dis-je, profite du temps de sommeil qui te reste. » Je me tournai vers mes compagnons, qui n'avaient pas perdu une miette de notre échange. Laurier me regardait avec une expression de révulsion mêlée d'incrédulité, et le fou, les traits creusés, paraissait 10 ans de plus. Ses lèvres étaient pincées, son silence accusateur. Je barricadais mon cœur. Nous devrions tous nous reposer tant que nous en avons la possibilité. Tout à coup, la fatigue enfla en moi comme un raz-de-marée. Œil de Nuit s'était assis à côté de moi. Il s'appuya contre ma jambe et je partageais soudain son immense épuisement. Trempé, couvert de boue, je me laissais tomber sur le sable de la grotte. J'avais froid, mais qu'espérer d'autre par une nuit pareille? Et puis, j'avais mon frère près de moi. À nous deux, nous avions assez de chaleur à mettre en commun. Je m'allongeais, posais mon bras sur lui et poussais un grand soupir. J'avais prévu de rester un moment étendu avant de prendre le premier tour de garde, mais le loup m'aspira dans son sommeil et m'y enveloppa.